série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un Cereal Lover
ou un Cereal Eaters.
Bonjour les Sérivores, nous allons aujourd'hui vous parler de la série Falling Sky, une série télévisée de science-fiction post-apocalyptique américaine en 52 épisodes de 42 minutes créée par Robert Rodat, produit par Steven Spielberg himself via sa maison DreamWorks. Alors, tu peux nous dire de quelle année est cette série ?
C'est une série qui a été produite des années 2011 à 2015.
Donc une série récente.
Et oui. Et c'est une série aussi qu'on pourrait classer comme science-fiction et fantastique. Elle est composée de 5 saisons, soit 52 épisodes de 42 minutes.
Donc une série quand même assez conséquente. Alors l'histoire, c'est 6 mois après l'invasion de la Terre par des extraterrestres qui s'appellent les Esphénistes. Un groupe de résistants assez éclectique, créant la seconde division, deuxième division du Massachusetts précisément, s'organise pour combattre les envahisseurs avec à la tête le colonel Weaver, secondé par Tom Mason, qui est un ancien professeur d'histoire de l'université de Boston, qui est à la recherche de son fils qui a été enlevé justement par ces extraterrestres. Les résistants vont devoir affronter ou s'allier à différentes espèces d'aliens afin de retrouver la liberté et de délivrer la Terre des mauvais extraterrestres. On verra qu'il y a des bons extraterrestres ici au cours de cette série. Et bien, quoi de mieux que de rentrer avec le générique final de cette série de science-fiction. Alors, les héros principaux, les acteurs qui les interprètent, comme d'habitude. Alors, il y a Noah Wyle, qui joue le rôle principal, celui de Tom Mason. Donc, comme on disait tout à l'heure, il était avant l'attaque professeur d'histoire à Boston. Et il va admettre ses connaissances de l'histoire de la guerre au profit de la résistance face aux extraterrestres de tout poil. Et sa femme est morte lors de l'attaque des extraterrestres. Et donc, Noah Wyle, on l'avait pu le voir, entre autres, dans des séries comme Flint Carson et les Aventuriers. Je sais pas si tu l'avais découvert à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Ou dans Urgence.
Ou dans Urgence, voilà. Donc moi, j'avais découvert Urgence. C'était pas trop une série que je regardais. Malgré qu'elle était culte, ça n'a jamais été trop ma tasse de, tu sais, les séries médicales.
Et il a fait un petit passage dans un épisode de Friends aussi.
Oui, voilà. Non, mais c'est ce qu'il a plus fait connu, en effet, c'est Urgence et Flint Carson. Puis, bien sûr, cette série, donc, on a parlé. Ensuite, il y a Will Patton. Will Patton, c'est un acteur qu'on a vu dans de nombreuses grosses productions ciné et TV, des fois dans des seconds rôles. Il joue ici le capitaine, puis colonel Dan Weaver, et il est le commandant de cette fameuse seconde division, en référence à la seconde division qui était lors de la révolution américaine, de la guerre d'indépendance américaine, donc c'est un petit clin d'œil à l'histoire. Et avant l'attaque, il était engagé dans l'armée pour 8 ans comme réserviste pendant 6 ans, ensuite donc vraiment un militaire de carrière. Il a servi en Irak aux côtés du colonel Porter et porte en permanence une casquette et une veste d'uniforme avec un drapeau américain, le côté toujours patriote, cousu sur la manche. Et il aime beaucoup la chanson « Many Rivers to Cross » de Jimmy Cliff, donc petit clin d'œil. Tu peux nous présenter les fils de la famille Mason ?
Oui, il y a Connor Jessup qui joue Ben Mason, fils cadet de Tom Mason. Enlevé dans la première saison, il joue un rôle principal à la suite de son enlèvement. Après le retrait de son harnais, il développe des facultés extrasensorielles et suscite la méfiance des résistants. Il y a aussi Drew Roy qui joue Al Mason, fils aîné donc aussi de Tom Mason. Il a 16 ans et vivait à Somerville avant l'attaque. Il fut membre de l'équipe de football de son lycée et il est combattant du côté de son père.
Et le dernier,
Maxime Knight, qui joue donc Matt Mason, le plus jeune des fils de Tom Mason. Dans les deux premières saisons, il essaye de se rendre utile malgré son jeune âge, avant de devenir un jeune combattant.
Et puis, dans toute bonne série, il y a un bon gros méchant.
Et, oui.
Et donc, c'est marrant parce qu'on en parlera un peu plus tard dans un Cerivore, ça sera Walking Dead, mais c'est pas encore fini, donc on attend un petit peu. Eh bien, il y a un super méchant qui est Colin Cunningham, qui joue le rôle de John Pope. Alors, John Pope, c'est un ancien criminel qui, après l'invasion, dirige un groupe d'hors-la-loi un petit peu indépendant. Il s'avère que c'est un excellent cuisinier et il va entrer régulièrement en conflit avec Tom Mason jusqu'à un crash d'avion qui remettra un petit peu un thème alors différent pour un moment. Mais bon, John Pope, c'est vraiment un petit peu Negan pour ceux qui connaissent la série Walking Dead. On pourrait faire un parallèle d'ailleurs entre les deux séries. Et voilà, c'est vraiment le mec qui est capable de trucs super, mais comme des pires saloperies.
Un beau pourri, un sans, quoi.
Un bon sang-foi ni loi. Il va avoir des moments, mais bon, au cours des épisodes, on apprend à le connaître, à l'aimer, le haïr. Donc c'est un personnage qui est quand même vraiment central dans la série. Ensuite, il y a Moon Bloodgood, qui est d'origine amérindienne. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir des acteurs amérindiens qui jouent Anne Glass. Et pas un rôle que d'Indien, puisqu'elle joue le docteur Anne Glass, et qui est un pédiatre qui s'occupe de l'infirmerie au camp des réfugiés et aide des enfants à surmonter le traumatisme créé par l'invasion et qui deviendra, on verra, je ne déflore pas, mais on aura des relations très proches avec le héros Tom Mason. Ensuite, tu peux nous parler de son adjointe ?
Oui, Seychelle Gabriel qui joue Lourdes Delgado en saison 1. À 4.
En fait, elle est mexicaine d'origine.
Étudiante en première année de médecine à Wesley, avant l'attaque, elle aide maintenant Anne Glass dans son infirmerie. Ses deux parents sont morts lors de l'attaque. Très croyante, elle est attentive aux autres.
Et on verra qu'elle aussi aura un rôle très important dans la série. Tu peux nous parler d'une autre actrice féminine très importante dans la série ?
Et oui, c'est Sarah Carter qui joue Margaret ou Maggie. Elle faisait partie du groupe de John Hope. Elle décide de le quitter pour intégrer la deuxième division. Elle fera équipe avec Al Mason et deviendra même sa petite amie.
Ensuite, il y a Amphat Coao qui va jouer Anthony. Alors Anthony, c'est le militaire de carrière. Anthony, c'est aussi un ancien policier de Boston, donc quelqu'un de très rigoureux qui sait se faire respecter par la communauté de la seconde division et qui est un petit peu un spécialiste des armes et de la sécurité et qui va rendre pas mal de services à l'équipe pour un petit peu faire la cohésion. Et il fait partie donc depuis le début de la seconde division. On a aussi Jess Ram qui joue Karen. Alors Karen, c'est au départ la petite amie de Al Mason et elle fait partie de la seconde division au début. Avant d'être enlevée par les extraterrestres, elle était lycéenne. Elle va être enlevée, comme je disais, au cours de la première saison et implantée et va devenir un des plus gros ennemis de la seconde division. Ensuite, il y a Duke Jones qui joue Cochise. Alors Cochise, c'est pas un Indien, c'est un extraterrestre, les Volm, les gentils extraterrestres. Et lui va être un petit peu le relais qui va faire office d'intermédiaire entre sa propre race, que sont les Volm, et les humains de la seconde division, entre autres, et les humains en général. Ensuite, il y a Mira Sorvino qui va jouer Sarah dans la saison 4 et 5, qui est une combattante de la seconde division et qui va devenir la copine de Pope. Et puis je te laisse terminer par la dernière de la famille Mason qu'on n'avait pas encore citée.
Et oui, c'est Scarlett Byrne qui joue Lexi. Elle est personnage principal dans la saison 4 et invitée dans la saison 5. Et c'est une fille mutante et c'est la fille de Anne et Tom. Donc.
Oui, donc on verra que justement elle a subi des modifications génétiques parce qu'il est question aussi beaucoup dans cette série de transformations, de modifications génétiques. Et Lexi, c'est vraiment le summum de tout ça. Alors, les anecdotes autour de la série, il y en a un paquet, comme d'habitude. Alors, les trois premières saisons sont chacune composées de 10 épisodes de 42 minutes environ, avec un pilote de 90 minutes comprenant les épisodes 1 et 2. Dès juin 2011, la série est programmée dans 75 pays dès le début, donc elle connaît donc un super succès.
Le 7 juillet 2011, alors que la première saison est en cours de diffusion, TNT décide de renouveler la saison pour une deuxième saison de 10 épisodes.
Et oui, comme je disais, le 11 juillet 2002, la série marche toujours bien. Elle va être renouvelée pour une saison de 10 épisodes.
Et le 2 juillet 2013, la saison a été renouvelée pour une quatrième saison de 12 épisodes.
Donc on pense que ça va augmenter. Eh bien non, puisque le 18 juillet 2014, la série a été renouvelée pour une cinquième et ultime saison, qui, elle, ne durera que 10 épisodes, vous voyez, donc, à part le quatrième épisode, la quatrième saison, excusez-moi, eh bien, c'est toujours 10 épisodes, on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Alors, Falling Skies est une série co-imaginée par Steven Spielberg et Robert Roda, qui avaient déjà collaboré en 1998 sur Il faut sauver le soldat Ryan. Ce long métrage avait d'ailleurs permis à Roda, avant de signer le script de The Patriot, Le chemin de la liberté de Roland Emmerich, d'être...
Mel Gibson.
Oui, bah oui, tout à fait. Et Heath Ledger.
Aussi.
D'être nommé pour l'Oscar du meilleur scénario, profitant de l'expérience d'un Spielberg qui a marqué le petit écran à maintes reprises avec des productions telles que Disparition, Frères d'armes ou The Pacific. Robert Roda est le principal architecte et showrunner donc de Falling Skies. Et il s'est entouré pour cela d'une équipe composée entre autres de Graham Yost, Craig Beeman et Mark Verheiden.
Alors, l'histoire se déroulant dans le Massachusetts, le groupe de résistance se nomme donc la 2e division du Massachusetts. La première saison s'ouvre sur la ville de Boston, assiégée, et les résistants donc fuient la ville et se retranchent dans un lycée qui s'appelle le lycée John Kennedy. C'est dans la ville d'Acton, c'est assez rigolo de voir tous ces références à l'histoire américaine. Et la série, d'ailleurs, multiplie des références à l'histoire américaine, et notamment à la guerre d'indépendance. En effet, c'est à Boston, en 1775, qu'éclate le conflit qui va opposer les colons américains aux forces britanniques qui se sont retranchées dans la ville.
Dans l'épisode 3 de la deuxième saison, une émissaire de la ville de Charleston, qui est la nouvelle capitale du pays, est chargée de regrouper toutes les forces résistantes au nom d'un nouveau congrès continental qui a été élu par 3000 civils. Ce congrès s'est réuni en 1774 afin de protester contre les lois intolérables votées par le Parlement du Royaume-Uni pour punir la colonie du Massachusetts, qui avait défié la politique britannique spécifiquement pour la Boston Tea Party. En 1776, ce congrès devient le congrès américain.
Donc l'actrice oscarisée Mira Sorvino va jouer le rôle de Sarah dans la saison 4 et 5. Donc on a parlé de Sarah, la copine de Pop. Et donc c'est vraiment elle, une actrice vraiment reconnue, puisque c'est quand même celle qui a été la... oscarisé, donc c'est quand même une actrice qui avait un bon palmarès qu'ils ont récupéré dans la série.
Le nom de famille du professeur d'histoire Mason fait référence à la ligne Mason-Dixon qui séparait les États nordistes et sudistes à la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis.
La ville de Charleston s'est révoltée en avril 1861 contre le gouvernement américain avec le bombardement de Fort Sumter, un événement qui est un des premiers épisodes violents de la guerre de sécession. William Harrison et John F. Kennedy sont les deux des présidents des États-Unis décédés pendant leur mandat, donc c'est une pertinence qui est contestée un petit peu.
Dans l'épisode 2 de la deuxième saison, lorsque Tom Mason demande à être attaché pour prévenir toute trahison, on peut y voir une référence à l'Iliade et à l'Odyssée d'Homère, lorsqu'Ulysse demande à être attaché au mât de son navire pour résister à l'appel des sirènes.
On voit que le côté historique, oui, va très loin. Alors, les extraterrestres capturent les enfants, tel le fils de Tom Mason, qui s'appelle Ben, et les contrôlent par un espèce d'harnais biomécanique. Le harnais lui-même génère un espèce de processus. Si un enfant le porte trop longtemps, ses effets sont irréversibles. L'enfant peut alors être rappelé par les extraterrestres à n'importe quel moment et commence à se transformer en ce qu'ils appellent un rampant, donc une espèce d'hybride d'extraterrestre. Ceux-ci sont également pourvus de ce harnais, découvert au cours de l'avant-dernier épisode de la première saison par le docteur qui se doutait de leur présence. Pas d'éléments sur la forme originelle de ces rampants avant l'implantation de ces harnais ont été révélés.
Lors de la deuxième saison, un rampant tente de convaincre le professeur Mason que certains rampants rebelles ont réussi à se libérer de l'emprise de ce harnais. Convaincu, la deuxième division se rallie au groupe de rampants, bien qu'Arthur Manchester, dirigeant de la forteresse d'Atlanta, accepte avec beaucoup de réserve.
Dans la seconde saison, les résistants vont se diriger vers la ville de Charleston, qui est située en Caroline du Sud, où a été instauré un espèce de gouvernement provisoire. Et en route, ils vont trouver refuge à l'hôpital William Harrison de Waverly, en Virginie.
Les extraterrestres sont des êtres venus d'ailleurs, ils ont envahi la Terre, ils maîtrisent une technologie supérieure à celle des humains. Les résistants combattent deux sortes d'ennemis, les rampants, en référence à leur façon de marcher, et les mechas, des robots guerriers.
Donc pendant les 7 premiers épisodes, nul ne sait qui sont vraiment les maîtres envahisseurs, Et les humains présument que ce sont les rampants avant de découvrir une nouvelle espèce.
Outre les 5 saisons diffusées sur TNT aux États-Unis, les aventures de Tom Mason et ses compagnons se déclinent sous la forme de comic books. Le premier intitulé Falling Sky Volume 1 a été publié en 2011, écrit par Paul Tobin et dessiné par Juan Ferreira. Il regroupe les 4 épisodes d'un comic diffusé en ligne l'année précédente. En 2012, le même duo a signé un autre volume directement publié en version papier. Son titre, Falling Sky, The Battle of Fitchburg.
Alors, une des particularités de Falling Sky, c'est qu'en 5 saisons de production, la série aura vu passer plusieurs scénaristes producteurs qui ont créé leur propre série avant ou après avoir travaillé sur ce programme. C'est le cas, par exemple, de Jonathan Glasner, qu'on a pu voir dans Stargate SG-1, Graham Yost, lui c'est Boomtown et Justified, Joe Weisberg, The Americans, et David Fick, Battlestar Galactica, Blood and Chrome, qui est resté, lui, au stade de téléfilm. Mais bon, donc des gens qui ont travaillé beaucoup sur des gros projets avant de rejoindre le projet pour chaque saison.
À l'origine, le personnage d'Anne Glass n'était pas un médecin. C'est après avoir été choisi pendant le casting que son interprète a appris la nouvelle. La raison ? Noah Wyle, son partenaire, fut un des médecins les plus marquants du petit écran après sa participation à Urgence. J'ai dit au producteur, vraiment, je vais avoir des scènes avec Noah Wyle et je ne sais pas de quoi je parle. Donc, elle a finalement relevé le défi sans demander d'aide à Wyle.
Pendant la 5e et dernière saison de Falling Sky, Noah Wyle a fait ses grands débuts en tant que réalisateur de télévision, près de 30 ans après ses débuts en tant qu'acteur. Pour relever ce nouveau challenge, eh bien, il a contacté un de ses anciens partenaires de la série Urgence, Eric Lassalle, qui incarnait le docteur Benton dans la série médicale. Le principal conseil de cet acteur réalisateur a été « Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu en sais plus que tu ne le crois. » Voilà, vous voyez, c'est être réalisateur pour les nuls, vous voyez. Le conseil, vraiment,
et puis en gros,
très grand,
c'est
qu'a pu lui donner.
Démerde-toi. En gros, c'est démerde-toi, mais en même temps, tu as toutes les capacités pour, alors crois en toi et vas-y.
Voilà. Alors, le moins que l'on puisse dire au sujet de Falling Sky, c'est que c'est une série qui a souvent changé de producteur délégué principal. Après l'épisode inaugural piloté par Robert Roda, scénariste de ce premier segment, ce sont donc Graham York et Mark Verheiden qui ont présidé au destiné du programme pendant la saison 1. Rémi Orbuchon, qui a fait 24 heures chrono, a pris la suite pour les saisons 2 et 3, avant que David Fick, Battlestar Galactica, ne supervise les 2 dernières années du show. Donc vous voyez, beaucoup de personnes ont participé à cette série.
Si le supérieur de Tom Mason, Noah Wyle, s'appelle Dan Wither, Will Patton, il s'agit d'un clin d'œil à Urgence dans la série imaginée par Michael Crichton. Le docteur Carter, interprété par Wyle, travaillait lui aussi sous les ordres d'un personnage répondant au nom de Wither. Mais il s'agissait d'une femme, le docteur Carrie Wither, jouée par l'actrice-réalisatrice Laura Innes.
La saison 1 de Falling Sky a été tournée dans la province canadienne de l'Ontario, dans les villes de Toronto, Oshawa et Hamilton. L'expérience aura cependant été courte durée, puisque à partir de la saison 2, les équipes de production ont en effet rejoint la ville de Vancouver en Colombie-Britannique. On peut également voir les locaux du Riverview Hospital dans la série, donc un établissement qui a également accueilli des équipes de X-Files, Dark Angel ou encore Fringe. Donc un endroit bien connu des spécialistes de la série TV.
L'acteur principal et le producteur délégué de Falling Skies se connaissaient très bien. Steven Spielberg est en effet un des producteurs d'Urgence, la série qui a fait de Noah Wyle une star du petit écran. Le réalisateur a tout de suite voulu que le comédien endosse le rôle de Tom Mason, le personnage principal. Pour le réalisateur D.T., c'était un bon moyen d'oublier un rendez-vous manqué. Wyle devait en effet jouer dans Il faut sauver le soldat Ryan. Mais cela n'avait pas pu se faire pour des raisons d'emploi du temps.
Bon, bah, finalement, il a raté une marche, mais il s'est bien rattrapé avec la série. Alors, scénariste du film Il faut sauver le soldat Ryan, dont on vient de parler, Robert Roda, créateur de Falling Sky, a passé beaucoup de temps sur la question de l'invasion de la Terre par les extraterrestres. À l'origine, ils avaient imaginé toute une séquence consacrée à cet événement. Mais rien de ce qu'il avait envisagé ne lui semblait véritablement original. Il a donc préféré concentrer ses efforts sur les enlèvements d'enfants par les extraterrestres, une intrigue au cœur de la saison 1.
Au tout départ, Falling Skies devait s'appeler Concorde. C'est en effet sous ce nom que Steven Spielberg et Robert Roda ont développé la série diffusée aux États-Unis sur la chaîne TNT. Il renvoie aux batailles de Concorde et Lexington, survenues pendant la Révolution américaine. C'est Steven Spielberg lui-même qui a proposé un changement du titre. Cela lui semblait être plus en phase avec l'esprit post-apocalyptique du sujet.
Aux États-Unis, considéré comme le blockbuster télévisuel de l'été 2011, la série a réuni 5,91 millions de téléspectateurs pour ses deux premiers épisodes, ce qui est la meilleure audience de la série au cours des 5 ans. C'est la plus forte audience d'une série, d'ailleurs, sur une chaîne câblée, n'ayant pu fidéliser que 4,8 millions de téléspectateurs tout le long de la première saison.
Lors de la deuxième saison, l'audience continue de baisser, en moyenne 3,7 millions de téléspectateurs, mais reste très satisfaisante pour la chaîne TNT qui l'a reconduit pour une troisième saison. L'épisode 3, Badlands, de la saison 3, a enregistré la plus mauvaise audience de la série avec 2,79 millions de téléspectateurs.
Donc ce qui est, pour les États-Unis, pas terrible, mais bon, on s'en contente très bien pour certaines émissions en français. Au niveau des récompenses, bon, bah, une cérémonie des Critics' Choice Television Awards en 2011 pour la série la plus attendue, et puis de nombreuses nominations en 2012 au Saturn Award comme meilleur acteur pour Noah Wyle, au Visual Effects Society Award 2013, meilleurs effets spéciaux. La cérémonie des Primetime Emmy Awards, meilleurs effets spéciaux aussi. 2014, cérémonie des Saturn Awards, meilleur acteur pour Noah Wyle. Comme quoi, sa série était bien reconnue. Et TNT publie sur son site un webcomic de la série. Et ce webcomic est diffusé par le site de la chaîne TNT. Commence par l'arrivée de Tom Mason dans la seconde division. Il comporte 16 chapitres de 4 planches chacun, sortant à intervalles réguliers de 2 semaines. Et il est écrit par Paul Tobin et illustré par Juan Ferreira. Il a pour but de combler tout le fossé avec le comics de Douchepas sorti à New York Comic Con. Donc voilà, un petit peu pour les gros fans de cette série qui voudraient en savoir plus.
Il est possible d'y voir l'organisation de celle-ci, dessinant des affiches afin de les placarder dans les ruines des villes pour recruter hommes et femmes en âge de se battre. La deuxième division cherche ensuite à acquérir davantage d'armes. Les bases militaires ayant été détruites lors de l'attaque, il ne reste plus que 2 solutions. Tom Mason sait où en trouver. Un de ses collègues, le professeur de mathématiques Alexander Blenza, en possède.
Donc, on peut voir que cette série est surtout basée, oui, c'est une série sur la résistance. Hein. Cette série rappelle en effet toutes ces séries de films et de séries télé qui nous parlent des invasions extraterrestres, et on vous en citera toutes d'ailleurs quelques-unes tout à l'heure dont vous avez aimé. Qu'as-tu pensé de cette série, toi, David ?
Bah écoute, je t'avouerai que je l'ai pas vu en entière, mais les épisodes que j'ai vus, c'était vraiment très très bien réalisé. Bon, après, il y a Steven Spielberg hein, derrière, quand même.
Bah il y a quand même, oui, un paquet de.
Il y a quand même du lourd derrière, hein, mais voilà. C'était très bien fait. Après, Noah Wyle, c'était sympa de le voir dans un autre rôle que celui d'urgence.
Ah bah là, c'est plutôt un rôle, oui, d'action. C'est pas un rôle de docteur. C'est pas le comment ça s'appelle, le libraire un petit peu empâté de Flynn Carson. Non, là, c'est vraiment. Ça. Le héros pur et dur, professeur de son état qui devient malgré tout un chef, un leader. Au départ, c'est pas ce qu'il pensait, je pense, être. Moi, j'ai bien aimé cette série. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis tout à fait. Si on remplace les extraterrestres par les zombies, ben, on a vraiment une trame à la Walking Dead. Donc, en plus court, et peut-être ce qui sauve un peu la série, c'est justement de ne pas s'éterniser. Voilà, donc la fin est recevable, comme dirait l'autre. Donc il n'y a pas, c'est pas une série qui se termine sans qu'une tête. Il y a une fin, donc au moins on peut reconnaître ça aussi à cette série. Eh bien, je te propose de nous mettre un petit extrait de la série pour voir comment sont les méchants extraterrestres.
Le combat doit continuer, j'en suis persuadé. Parce qu'on ne peut pas se cacher des aliens pour l'éternité.
Open fire!
C'est quoi cette chose?
Ils sont passés à la vitesse supérieure.
Le temps est compté, général.
Alors, le plus, c'est les originalités de la série. Là, j'ai mis de très bons effets spéciaux, spécialement les créatures extraterrestres, hein, que ce soit les rampants, les Worms ou les Effenistes. Et toutes les espèces de bestioles. À un moment, il y a des espèces de d'araignées mécaniques aussi. C'est vraiment très très bien fait. Les vaisseaux spéciaux. On voit que derrière, comme tu disais tout à l'heure, il y a du Spielberg derrière. Et puis des vieux de la vieille. Donc de ce côté-là, c'est très réussi pour tous les effets spéciaux et tous les créatures. J'ai mis des personnages masculins et féminins complexes, donc c'est ça qui fait une bonne série aussi, hein, un bon casting et puis aussi oui des bons personnages, justement aussi important que ce soit les hommes que les femmes, les différentes ethnies sont représentées et pas caricaturées, ce qui est en effet très intéressant. J'ai mis aussi un personnage très ambigu dont on a parlé, hein, le fameux John Pope, qui a ses failles, qui est un peu un Negan dans Walking Dead, pour ceux qui connaissent la série. Et voilà, donc un personnage intéressant qui a aussi ses failles. Voilà, bon, en gros, j'ai bien aimé cette série, et je la conseille aux gens qui aiment bien toutes les séries de science-fiction. C'est une série à voir. Les moins de la série, j'ai mis un patriotisme parfois lourd, nous vendant une version idéale et guerrière des USA. Bon, ça fait penser un petit peu à un film dont on va parler, Independence Day, ou des choses comme ça, quoi. On a l'impression que tout tourne autour des Américains.
Ça, c'est très américain.
Voilà, et ça, moi, ça me supporte un petit peu. À la fin, commence à parler que l'invasion, elle est vraiment planétaire. Et bon, d'accord, ça se centre sur cette division, mais derrière, on aurait bien aimé peut-être voir un petit peu plus des autres divisions dans les autres États, dans les autres pays. Ça aurait peut-être amené un petit peu plus d'internationalisme. Et puis voilà, parce que ils sont bons, ils sont parfaits, ils sont meilleurs. Voilà, ça fait un peu comme Top Gun. C'est distrayant, mais bon, derrière, c'est vraiment un petit peu de la propagande. C'est jamais bon de la propagande intégrale. On en apprend un petit peu sur l'histoire des États-Unis. Pour les gens qui aiment l'histoire, c'est aussi intéressant. Mais voilà, un petit peu trop auto-centré, un petit peu comme Independence Day. Voilà. Et puis bon, le drapeau américain tout le temps, là, c'est le côté gavant des États-Unis de temps en temps. Mais bon, à côté, c'est une bonne série qui est bien faite. Mais voilà, quand il faut faire avoir une petite critique constructive, je pense que c'est pas mauvais non plus. Toi, de ton côté, t'en as pensé quoi en positif ou en négatif?
Je pense vraiment la même chose que toi. Et ce qui est bien, je trouve, ça, c'est tu l'as déjà dit, mais tu l'as pas dit là dans les puces de la série, c'est qu'en fait, elle s'est pas éternisée. Tu prenais l'exemple de Walking Dead. Personnellement, au bout de 7-8 saisons, il y a tellement des saisons, en fait, il y a des saisons extraordinaires, exemple dans Walking Dead, et il y a des saisons, en fait, qui sont très très longues, limite monotones. Donc, autant faire que 5 saisons, mais 5...
5, 6, 7 saisons maximum, et après, oui, voilà. même si c'est des fois un peu frustrant, parce que, bon, on est tellement habitué à voir les aventures de certains. Il y a des séries qui... On demanderait plus parce que c'est des séries historiques et donc on peut pas détailler plus. Ouais. Mais bon, pour des séries de fiction, c'est vrai que...
Ouais, et puis même, je prends vite fait l'exemple de Peaky Blinders, ce qui vient juste de se terminer. Dans un sens, j'aurais envie d'en voir plus, même s'il y a un film de prévu. Mais en fait, je suis content que ça s'arrête là parce que les saisons sont énormes.
Ok, de toute façon, on en parlera puisque justement, on parlait de Walking Dead et de Peaky Blinders, donc... Dans les prochains Sérivores qui viendront dans l'année à venir, je pense que on parlera de ces séries qui sont devenues cultes avec le temps et comme ici on parle en priorité des séries qui sont terminées, donc elles vont bientôt rejoindre la galerie de Sérivores.
Tout à fait.
Alors, si vous avez aimé, j'ai mis Les Envahisseurs, hein, bon, un incontournable, hein, on en avait parlé ici. Les Independence Day 1 et 2, bon, si on enlève le côté un petit peu trop, ils sont forts ces Américains, c'est un film avec de très bons effets spéciaux, un très bon Will Smith, hein. Là au moins il tape sur des extraterrestres et pas sur des copains, c'est pas mal, petit clin d'œil bien sûr, donc moi j'adore Will Smith, puis bon, bah, il a dérapé, faut être contre la violence, mais faut arrêter aussi de monter en sucette, hein, pour faire le buzz, je trouve que c'est un petit peu crétin. La Guerre des Mondes, la série télé et les films, hein, parce qu'il y a eu de nombreuses adaptations du roman d'H.G. Wells. Alors, on en a parlé ici, la série V, hein, ça rappelle un petit peu beaucoup les séries d'ailleurs, puisqu'il y a le remake après. Et puis, j'ai mis Defiance, une série que j'avais bien aimée, qui est assez sympathique aussi sur le thème qu'une cohabitation extraterrestre et humaine, puisque là ça se passe après la fin de la guerre entre les humains et les extraterrestres. Donc c'est voilà. Après il y en a des tonnes hein, des séries sur des invasions extraterrestres. Mais bon, déjà vous avez de quoi faire avec ce que je vous ai cité là, et puis on en reparlera dans d'autres séries et on en présentera encore dans Cerivore, je pense. Et maintenant, nous allons passer au coup de cœur, Cerivore. Le coup de cœur, Cerivore, alors là, je pense que c'est une série qui a marqué pas mal de générations parce qu'elle passait souvent aux vacances scolaires et elle repasse de temps en temps. C'est L'île mystérieuse, une mini-série italo-hispano-française en 6 épisodes de 52 minutes de 73. Créé par Jacques Champreux et Juan Antonio Bardem. Alors Bardem, c'est le grand-père de Javier Bardem, et qui donc était réalisé par lui-même et Henri Colpi. Ça, c'est d'après bien sûr le roman homonyme de notre Jules Verne national. Donc moi, je suis un grand fan et donc je crois que c'est une des meilleures adaptations qui a été faite de ce roman. Alors l'histoire, ça se passe durant la guerre de Sécession. Un groupe de nordistes et sudistes de différentes origines parviennent à s'échapper à bord d'un ballon dirigeable. Pris dans une tempête, le ballon est entraîné très 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 loin dans des terres au-dessus de l'océan Pacifique et va finir par s'écraser sur une île déserte. Malheureusement pour les passagers, l'ingénieur qui les a aidés à s'évader tombe du ballon loin des côtes et ses compagnons d'infortune le croient mort. Les survivants vont devoir malgré tout affronter les problèmes sur l'île, des pirates et aussi découvrir le fameux capitaine Nemo joué par Omar Sharif. Donc une bonne série d'aventures, je dis film, parce que une version condensée de 96 minutes est sortie en salle le 27 septembre 1973. Mais moi, je vous conseille de voir la série, elle est beaucoup plus complète, mieux faite. Le découpage en film, moi, je trouve moins intéressant. Mais bon, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps de lire le roman ou de voir la mini-série, vous pouvez vous remettre sur le film. Je pense que tu as vu cette série, David.
Oui, je l'ai vu, mais plus énormément de souvenirs, je t'avouerai.
Voilà, donc si vous êtes fan de Jules Verne, il y a un petit clin d'œil aussi entre les deux séries, puisque ça fait référence à l'histoire des États-Unis, hein, là, la guerre de Sécession, et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce parallèle et j'ai choisi cette série. Eh bien, quoi de mieux que de nous mettre le générique de cette série, qui s'appelle, la chanson s'appelle L'île bleue, elle est interprétée par Monique Planéard et sur des paroles de Christine Fontane, et on a trois interventions. On parlait de l'acteur Philippe Nico qui joue Gédéon Spilett, si je me souviens bien, dans cette série.
Soleil si grand,
perdu dans la mer, comme un poids, comme une larme, bien loin de l'hiver et du temps. L'île bleue.
Le ciel et l'eau.
Loin que le monde, à l'abri des eaux, tu la trouveras enfin devant toi.
Dans un monde à l'envers.
Donne-moi la main, on ne peut pas nous la prendre. connais déjà le chemin. L'île bleue.
Eh bien, fin de ce Cérivore. Merci David de ta compagnie. Et on a parlé, j'espère, d'une série et de deux séries aujourd'hui qui vous tenteront et que vous essaierez d'aller découvrir ou redécouvrir. Et en attendant, eh bien, continuez à dévorer des séries de toutes les époques sans modération. Bye bye.
Série. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.